Bonsoir.
Plusieurs appels au calme sont enregistrés à la suite des manifestations qui sont observées à Kinshasa et dans certaines parties du pays. Le gouvernement appelle à la reprise normale des activités et des emportés. L'Union européenne appelle la classe politique congolaise à un consensus qui permette un retour au calme. Comment analyser ces appels au calme? Nous en parlons avec le professeur Joseph Moudimbi. Il est professeur à la faculté des sciences sociales, département des sciences politiques et administratives à l'université de Lubumbashi. Bonsoir, professeur Joseph Moudimbi.
Bonsoir.
Professeur Nopes Kibiswa, il est spécialiste en analyse et résolution des conflits. Bonsoir, professeur Nopes Kibiswa.
Bonsoir.
Et Jonas Tchombela, il est coordonnateur de la nouvelle société civile du Congo. Bonsoir, Jonas Tchombela.
Bonsoir.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
La présence policière constatée par-ci, par-là, à travers la ville de Kinshasa ne doit pas effrayer la population. Ces éléments sont là pour sécuriser tout le monde, déclaration du porte-parole du gouvernement. Ce matin déjà, le ministre Lambert Mende a lancé cet appel aux Kinois, les invitant à reprendre les activités. On écoute un extrait de son appel au téléphone de Dona Madimba.
L'ordre est en train d'être rétabli. En tous les cas, tous les points de chaleur qu'on a observés avant-hier, mais surtout hier, avec pillage totalement éhonté de certains commerces et d'autres maisons particulières, ont été ramenés à la normale grâce à l'intervention efficace des autorités administratives locales, mais surtout des patrouilles mixtes de la police et des forces armées de la République démocratique du Congo, que l'on peut encore voir à travers les rues. Ces patrouilles mixtes ne doivent en aucun cas inquiéter nos compatriotes, qui doivent plutôt les considérer comme des structures qui sont à leur disposition pour leur garantir de vaquer normalement à leurs occupations sans être perturbés par des petits malfrats qui profitent de tous les événements pour nous ramener des années en arrière avec ces pillages que tout Congolais digne de ce nom voudrait absolument oublier. Donc, je voudrais les inviter, les Kinois, à faire confiance au gouvernement, à la police et à l'armée qui sont en train de patrouiller, à reprendre une activité tout à fait normale. Ceux qui empêchent les enfants d'aller à l'école le font, bien sûr, peut-être parce qu'ils ont je ne sais quelle crainte, mais ce n'est pas dans l'intérêt des enfants ni dans l'intérêt des parents, puisque la situation est sous contrôle au moment où nous parlons.
Le député national Clément Kankou appelle la population kinoise au calme. Dans une déclaration à la presse, cet élu du peuple pense que les actes de pillage et de vandalisme perpétrés à Kinshasa ne profitent pas à la population. Ceci devrait s'exprimer pacifiquement. À l'occasion, il appelle aussi le pouvoir à écouter les langages du peuple. Clément Kankou le dit au micro de Jacques-Yves Molima.
D'abord, nous tenons à déplorer les pertes en vie humaine. Nous déplorons aussi les dégâts matériels. Nous pensons que les actes de vandalisme et de pillage ne sont pas productifs. Notre jeunesse devrait manifester pacifiquement. C'est plus productif de manifester pacifiquement, de s'exprimer pacifiquement, que de céder à ce que nous sommes en train de regretter, c'est-à-dire les cas de pillage qui, à la limite, ne profitent à personne. Les cas des bus Transco et autres biens qui sont cassés, je pense que c'est la même population qui risque d'en souffrir demain. Le message de la population doit être entendu. C'est pourquoi je pense qu'il est plus que temps qu'on se mette rapidement, qu'on regarde dans la même direction pour essayer de trouver une solution à tout ce qui se passe aujourd'hui.
Suite à la situation qui prévaut à Kinshasa, la MONUSCO a aussi lancé un appel au calme. On écoute le général Abdallah Wafi, représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies au Congo, au cours de la conférence hebdomadaire des Nations Unies de ce mercredi à Kinshasa.
La MONUSCO et la communauté internationale se sont lourdement investies au cours de ces deux dernières décennies pour accompagner le peuple congolais dans sa quête pour la paix, la sécurité et la stabilité. C'est pourquoi nous lançons un vibrant appel à tous les acteurs politiques pour s'abstenir de tout acte de violence de pillage et pour préserver la paix si chèrement acquise en République démocratique du Congo. À l'opposition politique, nous demandons de poursuivre leur combat politique par des moyens pacifiques et de se démarquer de tout acte de violence et d'inscrire résolument leur démarche dans le respect strict des lois et règlements de la République. Aux autorités politiques de veiller à préserver l'espace politique pour l'expression plurielle des opinions, y compris le droit de manifester, de s'opposer et de communiquer, qui sont des libertés et droits fondamentaux, reconnus et garantis par la Constitution de la République. L'espace médiatique et le respect de la liberté de la presse sont incontournables dans le débat démocratique et doivent en tant que tels être protégés.
Pour l'Union européenne, je cite, les tensions politiques liées à l'examen du projet de révision de la loi électorale en RDC, ainsi que les violentes manifestations à Kinshasa et d'autres villes du pays, ayant fait de nombreuses victimes, constituent un risque pour la stabilisation du pays. Fin de citation. Par la bouche de son porte-parole, l'Union européenne appelle toutes les forces politiques congolaises à rechercher un consensus qui permette un apaisement et un retour au calme. Pour cette institution, le respect des échéances électorales telles que fixé par la Constitution étant au centre du débat, elle dit attendre la publication des calendriers complets incluant les élections législatives et présidentielles qui s'inscrivent dans ce cadre constitutionnel. Professeur Joseph Moudimbi, vous êtes professeur à la Faculté des sciences sociales, département des sciences politiques et administratives à l'Université de Lubumbashi. Après avoir suivi ces différents appels au calme, comment vous les analysez? Professeur Joseph Moudimbi. Allô? Voilà. Apparemment, on l'a perdu. On va essayer de les rappeler. Professeur Nopes Kibiswa, je rappelle que vous êtes spécialiste en analyse et résolution des conflits. Comment vous analysez ces différents appels au calme?
Merci beaucoup. Permettez-moi d'abord de remercier l'Éternel qui a permis que je rentre au pays et que je puisse intervenir avec vous dans cette émission. Je salue tous les auditeurs de Radio Okapi à travers le pays et à l'étranger. Mon analyse, c'est d'abord, je voudrais ajouter à ce que les deux appels qui ont été lancés, l'appel de la MONUSCO et l'appel de l'Union européenne, c'est que j'invite les autorités du pays à intégrer dans leur système de gestion de l'État des mécanismes de prévention et de gestion des conflits de ce genre. Parce que s'il y avait ces mécanismes-là intégrés comme système de gestion politique de la nation, on éviterait d'arriver au stade où l'on est arrivé. Il a manqué quelque chose dans le processus, c'est ce mécanisme-là. Si ce mécanisme était en fonction, on éviterait d'arriver là où la situation se trouve aujourd'hui. Je les invite également, les autorités et les opposants qui déclarent qu'ils sont ouverts au dialogue, qui sont prêts au dialogue, d'aller au-delà des déclarations, mais maintenant de se rencontrer afin d'arrêter ce qui est en train de se faire maintenant, parce que le pays n'a pas besoin des morts pour que nous puissions nous faire élire. C'est important que tout le monde y aille dans la sérénité et qu'on arrive aux élections, autrement dit, dans un climat apaisé.
Oui, professeur Nopes Kibiswa, vous avez dit que, en fait, vous demandez, n'est-ce pas, aux autorités politiques d'intégrer dans leur système de gestion les différents mécanismes de prévention des conflits. Quels sont ces mécanismes?
Dans le cas d'espèce, je sais que maintenant au pays, il y a des mécanismes comme la commission d'intégrité et médiation électorale. Je pense que le gouvernement qui sait que ce mécanisme-là existe pouvait faire appel à ce mécanisme-là et que une fois ce mécanisme-là entre en action, parce qu'il ne peut pas entrer en action de lui-même, il doit entrer en action par l'acceptation des deux parties en conflit. La médiation ne se fait pas par une imposition quelconque. Donc, il fallait, au moment où la divergence commençait, que le gouvernement fasse appel à ce mécanisme-là d'homme d'église. Il pouvait les aider à éviter d'arriver à ce niveau-là. Un autre élément, et qui est le plus important, celui-là, il est structurel parce qu'il est dans la culture. C'est la bonne foi. La bonne foi de chaque personne qui gouverne. Et cette bonne foi-là, qui devrait être intégrée par chaque gouvernant, que je suis en train de gouverner pour l'intérêt de la nation, pour l'intérêt général des citoyens et des citoyennes du pays. Quand l'on intègre ces deux éléments-là, on ferait un grand pas. Il y en a d'autres, évidemment.
Voilà, vous avez cité parmi ces mécanismes la commission d'intégration et des médiations électorales qui devait être initialement, n'est-ce pas, en amont invitée par le gouvernement pour jouer son rôle. Vous pensez que c'est le gouvernement qui devait prendre l'initiative ou c'est cette même commission qui, lorsque s'est rendu compte qu'il y avait divergence des vues et que chaque famille politique campait dans sa position, qu'elle devait en principe prendre l'initiative avant d'attendre qu'on puisse évidemment l'inviter à jouer son rôle?
À ma connaissance, je sais que les acteurs de cette commission-là sont en consultation avec certaines personnes parce qu'ils avaient rencontré certains acteurs politiques et ils vont le faire parce que, évidemment, le gouvernement ne l'a pas fait et l'opposition non plus ne l'a pas fait. Mais vous savez, si l'opposition prend l'initiative, ce n'est pas sûr que le gouvernement va y aller, mais le gouvernement a deux casquettes. Non seulement il est détenteur du pouvoir qui dirige le pays, mais également il est dans la course pour conserver le pouvoir. Donc, le gouvernement peut inviter la CIM et lui dire « Nous avons besoin de vos services. » Et si vous commencez, si vous y allez vers l'opposition, s'ils sont d'accord, nous allons nous rencontrer, nous sommes prêts. Et au lieu de rester au niveau de déclaration, j'ai entendu l'opposant Tshisekedi le dire, et le président de la République l'a dit dans son message à la nation, ça veut dire que quelque part il y a des déclarations d'intention, mais il faut aller au-delà de cela.
Merci, professeur Joseph Moudimbi, vous êtes en ligne. Professeur Joseph Moudimbi, bonsoir.
Bonsoir.
Je rappelle que vous êtes professeur à la faculté des sciences sociales, département des sciences politiques et administratives à l'université de Lubumbashi. Et comment vous analysez les différents appels au calme que nous venons de suivre?
Et merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la question que vous venez de me poser. Et avant toute chose, je voudrais d'abord présenter vraiment mes regrets par rapport à tout ce que nous avons connu comme situation. Il y a eu des cas de mort, il y a eu beaucoup d'agitation à travers les villes, il y a eu beaucoup de cas de casse, de pillage, ce qui n'est pas une bonne chose, vous savez. S'agissant par exemple des cas de mort, la vie humaine, elle est sacrée. Et puis, en plus, on ne gère pas pour que les âmes meurent. Mais la gestion d'un service, la gestion des affaires publiques est un service à rendre à la nation. Et s'agissant maintenant de la question que vous m'avez posée là, j'ai dit que bon, les différents appels au calme sont très nécessaires et importantes parce que aussi bien sur le plan interne que sur le plan externe, on appelle les classes politiques congolaises à un certain consensus. Je l'avais autrefois dit, le consensus est très indispensable à l'existence et au développement de toute collectivité politique. En effet, lorsque les individus membres d'une collectivité politique ne s'acceptent pas mutuellement, effectivement, cette situation peut favoriser des mouvements scissipares qui peuvent même conduire la collectivité politique à une certaine balkanisation. Donc, nous avons intérêt vraiment à promouvoir le consensus au sein de la nation congolaise. Alors, comment y parvenir? C'est vrai, j'ai salué d'abord les interventions de mon co-débatteur, le tout premier, mais moi aussi j'ai ma manière de voir les choses et je pourrais proposer 4 voies pour parvenir à ce consensus. Alors la première voie, bon, ce sont des voies tout à fait pacifiques, il s'agit là de la socialisation politique, autrement dit l'éducation politique des masses. À travers la socialisation politique, les différents acteurs peuvent éduquer les masses populaires de manière à ce qu'elles adoptent des attitudes et des comportements tout à fait pacifiques, des comportements consensuels. Alors, deuxièmement, la manière dont les gouvernants gèrent les affaires publiques. Je l'ai dit dans mon introduction, la gestion des affaires publiques est un service à rendre à la nation. Quand on assure la gestion des affaires publiques, on doit tout faire pour arriver à résoudre le problème auquel la population est confrontée et satisfaire ses besoins. Alors, si vraiment on n'arrive pas à marcher dans ce sens-là, il est difficile de promouvoir le consensus. Troisièmement, il y a la manière dont les gouvernants prennent soin d'informer les membres de la collectivité politique sur les différents problèmes auxquels ils sont confrontés et sur les différents événements ou situations qui surviennent ou se produisent au sein de la collectivité. C'est ici que je suis en train de faire un peu appel aux acteurs politiques congolais d'être francs, de jouer un rôle sincère. Alors de sorte que quand vous informez la population correctement sur les différentes situations qui se produisent, et cela ne va pas créer de flou, et lorsqu'il y a des flous, c'est à ce moment-là que bon, les gens sont parfois appelés à développer des attitudes un peu extravagantes. Et enfin, c'est la manière dont les gouvernants gèrent la puissance qu'ils détiennent, en donnant des ordres bien élaborés et bien opportuns. Vous savez, lorsqu'on investit du pouvoir, lorsqu'on assure la gestion des affaires publiques, on détient une certaine puissance. Et cette puissance doit être bien gérée. La puissance ne doit pas être gérée dans le sens d'opprimer, dans le sens de marcher sur les populations faibles. Donc c'est ici le lieu de dire que gérer, il faut aussi être à l'écoute même de la minorité. Plutôt que de la matraquer, plutôt que de la frapper, parce qu'à ce moment-là, on s'attaque seulement aux effets, mais la cause demeure. On peut étouffer les effets présentement, mais tant que les causes ou la cause demeure, mais à la longue, cela finira toujours par revenir à la surface. Voilà un peu ma façon d'analyser les choses, monsieur le journaliste.
Voilà, vous avez cité les 4 voies qu'il faut emprunter, n'est-ce pas, pour parvenir à un consensus. Et revenons d'abord aux différents appels au calme. Il y a les porte-paroles du gouvernement qui dit que la présence policière constatée à travers la ville ne doit pas effrayer la population parce qu'elle a comme objectif, n'est-ce pas, de sécuriser cette population. Comment vous analysez les propos du porte-parole du gouvernement?
Bon, c'est une manière de procéder. Mais dans le contexte actuel, quand on voit le policier, mais la population a peur. On a peur parce qu'on sait que le policier peut me faire du mal. D'autant plus qu'il y a eu un mouvement d'agitation. Alors la présence des policiers, c'est pour étouffer dans le sac. C'est quoi ça, ces manifestations-là? Alors, c'est vrai, et tout dépendra aussi des attitudes que la que les policiers vont afficher. Si réellement ils sont calmes, ils ne tracassent pas la population, et vite, vite, cette dernière comprendra qu'elle est là pour son bien, et je crois que le problème ne se poserait pas. Mais lorsqu'on voit la présence de ces policiers-là dans les avenues, ou bien sur des coins stratégiques, avec détermination de frapper ou de tirer Alors, à ce moment-là, il y aura toujours de la méfiance entre la population et les policiers.
Voilà, et pour éviter cette méfiance entre la population et les policiers, n'est-ce pas qu'il faut se référer au troisième mode, en fait, à la troisième voie que vous avez proposée pour parvenir à un consensus, hein, vous avez parlé du mode de communication que le gouvernement doit utiliser, n'est-ce pas, pour communiquer avec la population sur ce qui se passe au sein du pays. Est-ce qu'il faut se référer à ces modes-là?
Oui, j'ai dit que bon, ces différents modes que j'ai avancés ici peuvent s'appliquer selon les circonstances. Mais présentement, je crois qu'il faut éviter qu'il y ait un déficit de communication. Donc le gouvernement doit prendre soin d'informer vraiment exactement, d'informer correctement la population sur les différents événements, sur les situations qui surviennent ou se produisent. Je crois que lorsque on informe correctement et qu'il n'y a pas aussi de déficit de confiance entre la population et le gouvernement, je crois qu'il y a lieu de promouvoir le consensus cherché.
Jonas Tumbela, je rappelle que vous êtes coordonnateur de la nouvelle société civile du Congo. Quelle est votre réaction face à cette situation qui prévaut à Kinshasa et dans certains coins du pays?
Merci Guy pour la question. D'abord, toutes mes condoléances à toutes ces familles éprouvées dans le rang des manifestants comme dans le rang de la police. Et tous nos regrets également pour tout ce que nous avons pu voir de morts comme de pillages. Ce sont des choses que nous ne pouvons pas souhaiter dans notre société. Comment nous analysons cette question? Vous savez que ce matin, nous, de la société civile, nous nous sommes réunis. Nous avons pensé qu'il était temps qu'on appelle au calme à l'ensemble des acteurs qui sont entrés en conflit, non seulement avec eux-mêmes, mais aussi avec leurs compatriotes. Et dans ces cas d'espèce, nous avons pensé d'abord à trois choses. La première chose, nous avons dit parce que tout ce qui a créé toutes ces tensions au sein de la communauté nationale, c'est la loi. Une fois elle a été déposée, c'est parti. Et tout est parti le 11, le 12, le 19, le 20, et ça continue d'ailleurs. Alors, nous avons lancé l'appel. Nous exigeons d'ailleurs la suspension immédiate du débat autour de cette loi. Ça peut être déjà une première mesure qui peut calmer les esprits. Et les gens peuvent maintenant se rattraper et puis penser à quelque chose. Donc la suspension de ce débat autour de ce projet de loi au niveau du Sénat comme au niveau de l'Assemblée nationale, à défaut de son retrait, pur et simple. En deuxièmement, nous avons pensé l'ouverture immédiate du dialogue entre l'opposition, la majorité et la société civile pour dégager le consensus autour du processus électoral. Parce qu'il se pose un problème. On ne peut pas aller dans une compétition si on n'a pas la même lecture règles du jeu qui seront mises en place. Et troisièmement, nous avons estimé que la RDC ne doit pas être seule. C'est là où nous saluons l'appel de la MONUSCO comme de l'Union européenne, bien sûr aussi, et les autres compatriotes. L'implication impérative de la communauté internationale, parce qu'il y a un problème de la méfiance. Vous avez entendu le professeur tout à l'heure. Ils ont parlé, le président de la République a parlé qu'il avait la main tendue, M. Tshisekedi a parlé qu'il souhaitait le dialogue, tout cela. Donc, au-delà de ses bonnes intentions, je pense qu'il faut que quelque chose commence. Mais comme ils ne se font pas confiance, donc nous estimons que l'implication de la communauté internationale devient vraiment une exigence de telle manière qu'on puisse aller vers la recherche de la solution pacifique entre les parties prenantes et engager directement le dialogue sur l'ensemble des questions. Et si ces trois préalables sont réunis, nous estimons que la confiance peut être rétablie. Et parce que nous devons appeler au calme, nous estimons aussi qu'il faut libérer immédiatement tous ceux qui sont arrêtés arbitrairement au cours de ces manifestations. Voilà comment on peut calmer les esprits, parce qu'on ne veut pas les calmer avec pas de moyens techniques. Nous appelons qu'on puisse libérer immédiatement toutes ces personnes qui sont arrêtées et qu'on lève les mesures vous savez que à Kinshasa, on ne sait pas accéder à l'Internet facilement, les systèmes de messagerie est interrompu, il y a les problèmes de réseaux sociaux qui sont cassés. Voilà. Qu'on puisse lever ces mesures très vite, parce que sinon cette situation risque de se retourner contre entreprise. Est-ce que gouverner, c'est prévoir? Si ça persiste, ça risque, parce que nous sommes là en train de payer, nous ne bénéficions pas des services. Donc ça risque de se tourner encore contre vous et créer d'autres tensions qui que sommes en train de déjà déplorer, des pillages, des ceci ou de cela. Mais voilà encore d'autres conditions qui sont en train d'être réunies pour que nous puissions arriver à d'autres formes de pillages que nous dénonçons d'ailleurs, que nous ne pouvons pas souhaiter. Voilà autant de questions que nous estimons. Et le souci est de la recherche de la paix. Le souci est de préserver les valeurs démocratiques et le respecter même. Voilà notre compréhension ou bien l'analyse de la situation. Si ce que j'ai avancé comme préalable là, et bien sûr, c'est que les deux professeurs viennent d'avancer, nous estimons que nous devons aller tout droit vers le système beaucoup plus équilibré et qui met tout le monde en confiance. Et dans ces conditions-là, nous pouvons aller à des élections libres, démocratiques, transparentes et apaisées.
Voilà, vous avez parlé de ces trois préalables, à savoir suspension immédiate de l'examen des projets de loi sur les élections, l'ouverture immédiate, n'est-ce pas, d'un dialogue au sein de la classe politique, et puis l'implication impérative de la communauté internationale au sujet de la suspension ou du retrait de ces projets de loi. La loi, on le sait, il est de l'autorité publique qu'elle est en cours d'examen au Sénat, et demain jeudi, on pourra procéder à son adoption, mais apparemment, on tient à adopter cette loi. Vous pensez que votre souhait serait pris en compte?
Ça, quelqu'un parlait tout à l'heure parmi les intervenants. Diriger, c'est écouter aussi ce qu'on dirige. Ce n'est pas un défi. On ne peut pas aller en dirigeant, les gens parlent défi. Ou bien croyant que ce que je suis en train de faire est en train d'être accepté. Donc, nous estimons être dirigeant, c'est être un monsieur ou une dame au service des autres. Et si les autres n'acceptent pas, il est grand temps de comprendre. Parce que là, ce n'est pas encore tard. Si la situation, moi tout à l'heure avant que j'entre dans ce studio, je parlais avec mes collègues à travers tout le pays. Je parle avec les amis de Mbandaka, d'Ouvira, de Goma. Je parle avec les amis de Kananga. Je parle avec des amis qui sont au sud ou au nord Kivu. Mais ils me disent que la situation est presque volatile. À tout moment, tout peut aller. Donc, qu'est-ce qu'ils tirent comme intérêt en laissant la situation pourrir? Nous estimons, parce que la loi pose des problèmes, on met une pause. On essaie de voir comment nous pouvons alors y aller de façon apaisée. Ça ne tue personne. Et pourtant, le chef de l'État, dans son discours, il a dit que nous ne voulons pas avoir des injonctions et que nous sommes capables de résoudre le problème. Voilà un problème qui se pose face à nous. Pourquoi nous pouvons alors nous mettre autour d'une table et chercher des solutions à ce problème qui se pose à nous, qui du reste engage l'avenir même de la nation? N'oubliez pas que le Congo a déjà plus de 6 millions de morts.
Professeur Nopes Kibiswa, la MONUSCO a demandé à tous les acteurs politiques de pouvoir s'abstenir de tout acte de violence et de pillage afin de préserver la paix en RDC. Votre analyse par rapport à cet appel de la MONUSCO?
Oui, avant cela, si vous permettez, je voudrais relever un autre mécanisme que je n'ai pas évoqué. J'ai dit qu'il y en avait plusieurs. Il est peut-être nécessaire, pendant ce temps ici dans notre pays, d'instituer, et même après les élections, d'instituer un médiateur de la République, qui serait un mécanisme qui, indépendamment de protagonistes du conflit, se déclencherait de soi-même. Le médiateur de la République prendrait de lui-même l'initiative de rencontrer les partis qui sont concernés par un conflit politique. Et là, on ne regarderait pas du côté du gouvernement. Quand je parle du gouvernement, je parle à la fois du président de la République et du gouvernement proprement dit. Et ici, dans le cas d'espèce, le chef de l'État a plus de responsabilités que quiconque, comme il n'y a pas de médiateur de la République, de prendre l'initiative afin de calmer les jeux. Je pense que s'il pouvait ne serait-ce que inviter les acteurs politiques à une rencontre et les gens voient les images, qu'il y a quelque chose qui commence à se faire, ne serait-ce que ce pas-là permettrait de décrypter la situation et de commencer une autre ère dans ce processus-là. Alors, par rapport à l'appel de la MONUSCO, je voudrais également indiquer que la MONUSCO a également une responsabilité. C'est la résolution 2098 que j'ai entendu presque tous les acteurs politiques évoquer. Quand j'étais rentré au pays, ma première initiative était de rencontrer les acteurs politiques pour essayer de... je suis rentré donc à l'école de la politique de mon pays et presque tout le monde que j'ai rencontré, tout le monde a dit les solutions aux problèmes doivent être concertées et nous pensons qu'elles peuvent se résoudre dans le cadre de la résolution 2098. J'ai entendu Étienne Tshisekedi en parler également. Donc, la MONUSCO, le représentant spécial, peut prendre des initiatives, s'il ne les a pas encore prises, de rencontrer les protagonistes et de leur dire, maintenant, on en a assez. Essayons d'aller dans telle direction et dans la mesure où les deux parties, il y en a une qui ne veut pas aller au dialogue, eh bien, la MONUSCO prendrait, le représentant spécial, je veux dire, prendrait les initiatives pour soit le dire dans un communiqué, soit en tout cas informer l'opinion qu'il y a des initiatives qui sont en train de se faire pour remettre les choses au calme. C'est très important. Alors, deux éléments autres que je voulais ajouter, c'est que il y a dans les deux parties, il y en a une qui est en position de faiblesse et une autre qui est en position de force. Et dans la plupart des cas, dans les conflits politiques, chacune des parties veut qu'elle puisse nécessairement être vue en position de force. Conséquence, chacune des parties monte les enchères et on arrive à ce que nous avons là. Parce que lorsqu'il y a eu le premier raté de l'opposition, l'opposition se sentait en position de faiblesse. Et elle est revenue en charge. Elle considère qu'elle a repris du poil de la bête et que maintenant, elle peut continuer. Et là également, je dis, est-ce qu'on peut tous les deux s'asseoir et essayer de parler plutôt que de vouloir continuer dans cette direction-là? Et le tout se résume dans la culture. Il faut éviter de vouloir humilier l'adversaire. L'adversaire, il ne faut pas l'humilier, même si tu es en position de force. Et d'habitude, dans les pays africains, ceux qui sont en position de force, c'est ceux qui ont l'imperium, ceux qui ont les forces de l'ordre à leur disposition. Parfois, c'est un couteau à double tranchant. Ça peut se retourner contre eux aussi. Voilà ce que je peux dire comme élément d'analyse.
Professeur Joseph Moudimbi, le professeur Nopes Kibiswa a proposé, entre autres, l'institution des médiateurs de la République. Et vous pensez que dans le contexte congolais du moment, ces médiateurs de la République pourraient avoir le pouvoir de mettre tout le monde autour d'une table? L'Union européenne a appelé, n'est-ce pas, à un consensus, mais on se rend compte que cette classe politique est incapable, en amont, de trouver un consensus au sujet de l'examen de ces projets de loi, alors qu'on se rappelle qu'il y a de cela quelques mois, lorsqu'il était question de réformer les bureaux de la CENI, les consensus étaient trouvés, mais par rapport à cette loi, il n'y avait pas de consensus, et apparemment chacun campe dans sa position, et la nomination des médiateurs de la République pourrait être une solution.
Bon, merci beaucoup pour la question. Je voudrais d'abord préciser une chose. Nommer un médiateur de la République, cela signifie que les différentes classes politiques congolaises ont réussi à se mettre d'accord, à créer autour d'elles un certain consensus. Or, dans le contexte actuel, ce consensus-là n'existe pas. Alors, je pense mal comment est-ce qu'on peut arriver vraiment ici à instituer un médiateur de la République. Je crois que ça peut être une des voies, mais tant qu'on n'a pas encore réussi à réaliser un consensus au plan interne, cela relève vraiment du chimère. Alors, vous avez parlé de l'Union européenne qui a fait un appel au consensus. Mais je voudrais, avant de répondre à cette question, préciser une chose. Les différents gouvernements étrangers, comme aussi les différentes organisations internationales, agissent sur les décisions
des gouvernants d'un État, à travers, bien entendu, les accords de coopération économique, militaire, culturelle, etc., etc., qui sont en train de signer, et aussi à travers les différentes aides et les dons qu'ils leur accordent. Alors, c'est à partir de là que cela peut avoir aussi vraiment l'action des organisations internationales, comme aussi des pays étrangers, peut être efficace sur les décisions que prennent les dirigeants d'un État. À cela, je peux aussi ajouter le type de relation qui existe entre les dirigeants d'un État considéré et les organisations ou bien les gouvernements étrangers. Alors, si ces relations-là sont vraiment intenses, l'action des organisations internationales, comme aussi des gouvernements étrangers, peut être beaucoup plus efficace. Mais dans le contexte actuel de la RDC, il peut se faire que le gouvernement congolais soit à mesure d'émousser, de se passer des différentes aides, des différents dons. Alors, à ce moment-là, ces appels-là peuvent rester seulement des lettres mortes. Vous n'avez qu'à prendre la situation en Syrie. Combien de fois la communauté internationale, les différentes organisations internationales que nous connaissons, ont lancé des appels pour qu'il y ait accalmie. Est-ce que le gouvernement a pu comprendre? Non. Alors, moi, je crois que la RDC doit faire, c'est vraiment ici de se dépasser, de parler un langage franc et de regarder tous dans l'intérêt suprême de la nation plutôt que de vouloir sauvegarder les intérêts de telle ou telle autre classe politique. Et je voudrais ici saluer l'intervention du collègue professeur. Par exemple, il soutient qu'en Afrique, donc ceux qui sont dans une position de force veulent à tout prix humilier ceux qui se retrouvent dans la position de faiblesse. Mais ce n'est pas correct, parce qu'aujourd'hui, le gouvernement congolais, par exemple, ne doit pas considérer que ce qui se passe, les différents mouvements d'agitation à gauche et à droite, donc ne sont l'expression que des problèmes banals, non. Donc il y a un problème sérieux au niveau de la société congolaise. Et c'est ainsi que le gouvernement doit s'employer. Pas que c'est à lui que revient la charge de trouver solution aux problèmes de la société congolaise et de trouver aussi satisfaction aux besoins ressentis dans cette société. Donc il lui appartient de pouvoir bien s'attaquer aux causes que aux effets.
Voilà, Jonas Tchoumbela, vous avez parmi les préalables que vous avez, n'est-ce pas, proposés, il y a celui plutôt où vous parlez de l'ouverture immédiate d'un dialogue. Est-ce que vous pensez que ces dialogues seraient possibles dans les contextes politiques du moment, hein? On sait la conception que chaque famille politique a de ces dialogues, hein? C'est des conceptions diamétralement opposées, et vous pensez que même si on appelait les gens autour d'une table pour ces dialogues, vous pensez que cela pourrait aboutir à un consensus?
Oui, nous estimons que tout est possible. Là où il y a les hommes, le problème continuera à se poser et chaque fois que le problème se posera, il y aura toutes ces solutions. Vous vous souviendrez en Afrique du Sud, Boutelisi avait les armes à main. Mandela est allé vers Boutelisi pour chercher la paix. Et ça fonctionnait. Vous vous souviendrez encore ici chez nous, il y avait la guerre, il y avait le pays qui était coupé, les gens se sont mis autour d'une table, le pays est redevenu aujourd'hui un seul corps comme on le vit aujourd'hui. Donc, les problèmes que nous sommes en train de redouter actuellement, que les gens se méfient, qu'ils ne peuvent pas se parler, là, ce sont des choses, chaque fois qu'on va dans des dialogues ou des discussions de ce genre-là, chacun monte les enchères comme il le veut. Mais lorsqu'on est autour de la table, il y a des concessions qui peuvent se faire et les gens peuvent accepter, abandonner certaines positions au nom de l'intérêt de la nation, au nom de l'intérêt de la population. Parce qu'on ne gère pas un pays comme un bien privé, c'est un bien de la communauté, de tout le monde. Donc, il y a des règles de gestion de ce bien-là. Donc, on doit se comporter en conséquence. Ce n'est pas un bien acquis pour soi-même, pour toujours, mais c'est un bien qui appartient à tout le monde. Donc, tout le monde a droit au chapitre et au débat et aux discussions. Donc, la méfiance est vraiment intense au niveau de la communauté, mais nous estimons que parce qu'il y a des prédispositions déjà dans les acteurs en compétition. Commençons par le chef de l'État. Il a dit qu'il avait la main tendue. Nous avons entendu Étienne Tshisekedi. Il a dit qu'il veut le dialogue. Mais ça montre qu'il y a cette prédisposition de discuter, de se parler. Pourquoi pas on ne peut pas arriver aux concessions? Donc, nous croyons...
Et vous pensez que tous souhaitent ce dialogue à n'importe quel prix?
Mais je pense qu'ils ne sont pas là pour leurs intérêts privés et personnels. Ils sont là pour les intérêts de la communauté. Et c'est au nom de ces intérêts de la communauté qu'ils prennent ces positions. Nous estimons aussi qu'ils doivent se faire des concessions. Parce que le prix, finalement, c'est quoi? Parce qu'il faut respecter sur les règles du jeu. Il y en a qui disent que non, voilà, le problème est celui-là. Il faut qu'on se le dise. Que les arrivés, on ne peut pas avoir un autre mandat pour l'actuel chef de l'État. S'il y a cette loi-là, il y a cette possibilité de problème qui se pose dedans de recensement, il risque de glisser, des choses comme cela. Mais tout cela autour d'une table, lorsqu'on peut rester, on constate que organiser les élections dans cet espace de temps qui nous reste et les problèmes qui se posent. Parce que les élections, ce ne sont pas seulement les problèmes de mettre le bulletin dans l'urne. Les élections, c'est aussi l'infrastructure. On parle des élections locales. C'est à peu près 25 000 personnes, nouvelle autorité qu'on aura. Quel est le budget qui est prévu? Quelle infrastructure qui est prévue? Voilà autant de questions qui se posent, qui ne demandent même pas qu'on puisse croire qu'on est au pouvoir pour le pouvoir, mais on est au pouvoir parce que c'est un service qu'on rend à la nation. Je crois que ceux qui prétendent arriver au pouvoir, c'est ils le prétendent pour rendre service à la nation, non pas pour leurs propres intérêts et qui ne peuvent pas abandonner des positions qui, par moments, sont des positions qui amènent des tensions. Je pense et je crois à ces hommes congolais qu'ils peuvent arriver à quelque chose. Vous savez, et nous croyons encore à l'Église. Elle peut encore jouer un rôle important dans ce pays. Donc, lorsqu'on a parlé de médiateur, je pense qu'en ce moment, l'Église peut encore jouer un rôle parce qu'il y a encore quand même un minimum de confiance dans cette institution qui peut prendre l'initiative. Tout le problème, qui va prendre l'initiative? Mais je pense que c'est un appel qui est lancé aux gens de bonne foi qui veulent la paix du Congo et des Congolais de s'engager sur cette voie-là.
Merci, professeur Lopez Kibiswa, parce qu'on ne peut pas parler des violences sans évoquer ses causes. Il y a l'Union européenne ainsi que la MONUSCO qui préconise un cadre juridique, un calendrier électoral global consensuel. N'est-ce pas une solution? Ça sera sous votre conclusion parce que nous sommes presque à la fin de l'émission.
Oui, merci beaucoup. Je pense que le calendrier ne poserait aucun problème si les moyens pour organiser les élections étaient donné à la Commission électorale nationale indépendante à temps. Mais je pense qu'il y a un problème à ce niveau-là de la part du gouvernement. Mais je ne voudrais pas rester sans lancer cet appel directement et personnellement au chef de l'État. Je voudrais qu'il se souvienne toujours de ses débuts. Il a commencé par le dialogue national, les dialogues intercongolais, qui étaient en panne et que lui avait restauré, et cela lui avait permis de gouverner la nation jusque là où il est arrivé aujourd'hui. Toujours le dialogue. Il ne faut pas qu'il détruise ce qu'il avait construit lui-même.
Merci.
Il doit, si possible, dans la mesure de ses possibilités, il devrait se faire harakiri et prendre l'initiative.
Merci, professeur. Professeur Joseph Moudimbi, vous avez évoqué quatre voies pour parvenir à un consensus, notamment la socialisation politique, c'est-à-dire l'éducation politique des masses. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Ça sera sur votre conclusion.
Non, je voudrais tout simplement demander à l'opposition de recourir aux voies pacifiques pour entendre sa voix. Demander aussi à tous les professeurs qui sont au gouvernement de mettre leur intelligence, leur rationalité au service de la nation et que le gouvernement ne puisse pas minimiser la voix de l'opposition et de ce fait l'écraser.
Merci Jonas Tchombela, votre conclusion.
Je pense que nous lançons un appel vibrant au chef de l'État et à l'opposition de prendre toutes les dispositions qui s'imposent pour que le consensus se dégage le plus tôt possible.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Paul Bayayama qui était à la technique, à Alain Irung, Kaline Kouté, Berry Franklin Luchaka qui était à la réalisation sous la supervision de Julien Nyamouni, à la présentation Guy Matré. Merci et bon suite de programme sur Radio Capi.